Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe veux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Peut-être pour resituer cette fête que nous célébrons et qui, dans le missel romain, est prioritaire par rapport au dimanche, une fête qui tombe à date fixe le 9 novembre et qui, cette année, tombe un dimanche, donc la fête de la dédicace de la basilique du Latran. Peut-être faut-il rappeler quelques mots d'histoire pour dire que c'est au moment où l'empereur Constantin a ouvert la porte aux chrétiens, a donné pleine liberté aux chrétiens, qu'ont commencé à fleurir donc les églises un peu partout, des lieux de culte très nombreuses construites à l'époque. Et Constantin a fait lui-même construire une magnifique basilique sur le mont Célio à Rome, à la place de l'ancien palais du Latran. Et le pape Sylvestre Ier, à l'époque, vous savez, celui qu'on fête le 31 décembre, Saint-Sylvestre, le pape Sylvestre a dédié cette basilique au Christ Sauveur vers 324. Cette basilique est considérée par l'Église et par les chrétiens comme la première de toutes les églises au monde, la principale, la mère, en quelque sorte, de toutes les églises. Elle a été détruite plusieurs fois au cours des siècles et puis toujours reconstruite. Et la dernière fois, c'était sous le pape Benoît XIII en 1724. Et c'est au XVIIIe siècle, à ce moment-là, qu'on a imposé la fête de la dédicace de la basilique du Latran dans le missel romain. Et vous l'avez entendu, les passages de la Bible que nous méditons sont absolument magnifiques pour nous parler du temple, du corps du Christ, de la communauté chrétienne comme corps du Christ, et puis du chrétien comme demeure de Dieu. Ce sont des textes à méditer vraiment, nous pouvons les reprendre dans notre prière aujourd'hui pour les ressaisir. Et dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47, nous avons entendu en première lecture cette magnifique vision d'un temple nouveau. En effet, à l'époque, c'est au 6e siècle avant Jésus-Christ, vers 587-592, les Juifs ont été emmenés en déportation à Babylone et le prophète Ézéchiel a fait partie de la première chartée, si l'on peut dire, des Juifs qui ont été emmenés. Et il va essayer de vraiment de soutenir le moral de ses compatriotes qui se lamentent parce que, en fait, les envahisseurs ont détruit le temple et qu'il n'y a plus de temple. Et il va donc leur prophétiser, leur annoncer la survenue, l'existence, la construction d'un temple nouveau, d'un temple qui est un petit peu idéalisé d'une certaine façon, d'un temple duquel s'écoule par le côté droit de l'eau, j'allais dire de l'eau de vie, qui va permettre à des arbres de vie de pousser et de fructifier tout au long de ce fleuve jusqu'à la mer morte qui va en être assainie. Bref, une vision absolument idéalisée d'un futur où Dieu aura agi pour donner un temple nouveau. On ne sait pas très bien si c'est une construction en pierre, si c'est la prophétie de la reconstruction du temple par Hérode juste avant la venue du Christ. On ne sait pas très bien si c'est la même vision qui est reprise dans l'Apocalypse à la fin, chapitre 21, de cette Jérusalem céleste qui est le temple même de Dieu où les élus sont présents. On ne sait pas très bien si c'est aussi l'annonce de la passion et de la résurrection de Jésus, puisque le côté droit du temple dont s'écoule l'eau ne va pas s'en rappeler, évidemment, le cœur du Christ transpercé, d'où s'échappe l'eau et le sang. Et d'ailleurs, lorsque, à l'Évangile, nous entendons cet autre épisode qui est celui des vendeurs chassés du temple, quand on demande à Jésus par quelle autorité il fait cela, quel signe il va donner, il va répondre par une autre prophétie en disant « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le rebâtirai », faisant allusion à sa propre résurrection, ce que les disciples évidemment n'ont pas compris sur le moment, mais qu'ils ont compris plus tard, après la résurrection, comme une prophétie que Jésus avait faite sur le sanctuaire de son corps, sur sa résurrection. On change évidemment complètement de paramètre ici, puisque le temple qui était lieu de rencontre entre Dieu et son peuple dans l'Ancien Testament, temple de pierre, centre du monde pour les Juifs, et aujourd'hui il ne manque pas de courant juif aussi pour travailler à la reconstruction d'un troisième temple avec l'aide de certains politiciens, eh bien ici, vraiment, on est dans une perspective où Jésus annonce que non seulement c'est lui qui est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme maintenant, il est le vrai temple, mais il annonce aussi que chacun de nous est temple de Dieu, ce que va développer saint Paul dans la seconde lecture que nous avons entendue quand il parle aux Corinthiens en leur disant que voilà, il construit quelque chose qui est le corps du Christ et qu'il a posé des fondations, Jésus, mais que d'autres construisent dessus, mais que chacun de vous aussi, dit-il, est temple du Seigneur, temple du Saint-Esprit. Voilà. Alors Jésus se présente donc comme le lieu de rencontre, le lieu d'habitation, et lorsqu'il va chasser les vendeurs, il va avoir cette parole « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ». Et la maison de mon Père, cela s'entend aussi au sens filial, à savoir que dans cette maison, il doit y avoir un culte filial rendu à Dieu et que toute cette espèce de bazar qu'on a installé autour du temple et dans le temple même pour changer les monnaies et puis offrir des commerces d'animaux pour les sacrifices, tout cela est bien loin de ce cœur filial que Dieu attend de la part de chacun de nous. On nous dit qu'il les a chassés avec un fouet. Et si jamais vous avez regardé The Chosen dans la version 5, on nous montre Jésus qui a soigneusement préparé un fouet en le préparant longtemps à l'avance, qu'il a emporté dans un petit sac et qu'il sort au moment de l'épisode, ce qui est complètement faux puisque ça nous présente l'image d'un Jésus quelque peu justicier, mais dans le mauvais sens du terme, et que c'est sur le moment qu'il a pris des cordes pour chasser les vendeurs. Nous sommes appelés à un temple, à un culte filial, à laisser l'Esprit Saint du fond de notre cœur vraiment s'adresser à Dieu comme Père, à creuser toujours plus profondément une relation à Dieu qui soit toute simple, d'enfant qui s'adresse à son Père. C'est quelque chose qui nous est quelquefois difficile, Cela suppose beaucoup de confiance et d'accueil de la miséricorde de Dieu, mais c'est le cœur même du culte chrétien. C'est le cœur même du culte chrétien. Et Jésus, terminons peut-être par là, lorsqu'il se rencontrera la Samaritaine au bord du puits de Jacob, et qu'elle essaiera de le faire discuter sur où est-ce qu'il faut adorer, est-ce que c'est au temple à Jérusalem, ou bien est-ce que c'est au temple des Samaritains, là, au mont Garizim. Jésus dira, au fond, c'est ni l'un ni l'autre, il s'agit d'adorer le Père en esprit et en vérité. C'est cela le vrai culte filial que le Seigneur attend de nous, et nous pouvons demander à l'Esprit-Saint de nous pousser plus avant dans cette communion au Seigneur qui fera toute notre force, richesse,